Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau podcast d'Analyse F1 pour un nouveau High Speed Dating. Malheureusement, je n'ai pu proposer ce numéro ici présent la semaine qui a suivi le premier numéro qui était donc consacré à Sébastien Vettel pour les raisons que vous connaissez sans doute, c'est-à-dire mon absence due à la perte de ma connexion internet. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous invite à lire l'article que j'ai rédigé à ce sujet qui se trouve sur PodCloud et donc sur le mini-site d'Analyse F1, analysef1.podcloud.fr. Mais aujourd'hui, on va parler de Lewis Hamilton, le pilote le plus en vue du moment, la star de la F1, véritablement le tout nouveau triple champion du monde de Formule 1. Donc on va parler de cette étoile, mais avant ça j'ai envie de parler de nouveau d'Analyse F1, parce que ces derniers temps, j'ai observé au cours de ces dernières semaines, de ces derniers mois, c'est que lorsque je fais un podcast qui suit un Grand Prix, vous avez vu que je fais des résumés plutôt courts de la course, plutôt courts, mais sur la durée du podcast, ça représente quand même quasiment la moitié du podcast. Et vous avez peut-être pu sentir, je pense que ça sent parce que je le fais ressentir plus ou moins consciemment, c'est que ça m'énerve que ces résumés fassent quasiment la moitié d'un podcast qui est censé être sur un thème précis. Et la chronique est censée être thématique. Et pas si long que ça, quoi. S'il n'y avait pas ces résumés, les podcasts seraient encore plus courts et donc plus, on va dire, plus dans l'objectif que j'ai pour eux. Ce n'est pas le cas actuellement. Donc, je ne vais toujours pas faire de résumé de Grand Prix en tant que podcast dans le sens strict du terme. Pourquoi ? Parce que pour moi, faire des résumés de Grand Prix, c'est-à-dire des résumés complets, ce n'est pas intéressant. Je trouve que ce n'est ni intéressant pour moi et ni pour vous, en fait. Parce que être tout seul à raconter un Grand Prix, bon certes à analyser certaines choses, mais à essayer de faire revivre un Grand Prix que vous avez sûrement déjà vu, ou si vous ne l'avez pas vu, vous ne voulez sûrement pas tout savoir de ce Grand Prix en podcast, vous voulez peut-être en savoir un peu pour avoir l'eau à la bouche, mais pas plus. Voilà. Et en plus, le faire tout seul pour faire revivre un Grand Prix, c'est franchement compliqué. Donc je vous invite vivement, si vous voulez vous diriger vers ce type de podcast, en plus d'Analyse F1, bien évidemment, eh bien, je vous invite à aller écouter également le SAV de la F1, qui le fait très bien, parce qu'ils sont plusieurs, et du coup, ça rend la chose écoutable et passionnante, et c'est plutôt pas mal. Mais si je le faisais tout seul, non, ça le ferait pas du tout, ça je vous le dis. Mais voilà, du coup, j'envisage une solution en alternative, puisque j'envisage de faire un podcast qui concernerait seulement quelques éléments de la course qu'il ne fallait pas louper, donc des éléments un peu chauds qui peuvent être divers et variés, peut-être 3, 4, 5 éléments, je n'ai pas décidé encore. Pas un podcast forcément très long, hein, ce ne serait pas un résumé complet, je l'ai bien dit, il faut que ça reste dynamique. Analyse F1 se veut être un podcast, enfin je veux que ce podcast soit vraiment dynamique de manière générale. Donc c'est, on va dire, ces moments de la course, ces moments choisis, ces moments clés de la course, eh bien, en tout, pour les décrire et pour l'analyse, je n'ai pas envie que ça dépasse 15-20 minutes. Voilà, 15-20 minutes, ça me semble être un bon format. À vous de me donner votre avis également. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux, @F1Analyse sur Twitter et la page Facebook d'Analyse F1. N'hésitez pas, sur PodCloud également, vous pouvez laisser un petit commentaire. Voilà, donc j'ai envie que ça reste passionnant. Et j'ai envie, voilà, comme je l'ai dit, comme je l'ai un peu dit, c'est que si je fais ce genre de podcast, j'ai envie que ce soit intéressant, à la fois pour ceux qui ont vu la course, et je veux que ça donne l'eau à la bouche à ceux qui ne l'ont pas vu, mais qui veulent une sorte de preview pour savoir si la course est vraiment chiante, ou s'il y a eu quand même des éléments intéressants à regarder, quoi, des batailles ou autres, ou des faits de course marrants, etc. Si leur pilote a brillé, par exemple. Voilà, bon, ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Donc voilà, si je fais ce genre de podcast, ce sera plutôt dans ce format-là. J'y réfléchis très sérieusement pour y inclure très vite, parce que vraiment, c'est vrai que suite aux courses, ça ne me plaît pas trop. Donc bon, là je me rends compte qu'on est en fin de saison en fait et que mon idée intervient un peu tard, mais au moins pour la saison 2016, ce sera prêt et ben je peux faire même un test pour le Brésil et Abu Dhabi peut-être, hein, je vais voir. Je vais essayer de m'y tenir. Pour Abu Dhabi, c'est faisable. Pour le Brésil, je ne suis pas sûr. Au niveau de mes disponibilités, on verra. Je vais faire de mon mieux. Bref. Revenons à High Speed Dating, l'émission que vous écoutez. Enfin, l'émission plus une chronique, on va dire, que vous écoutez. En tout cas, c'est un podcast. Voilà, si vous voulez le définir, c'est un podcast tout simplement. Et le premier numéro était consacré à Sébastien Vettel, que vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter sur PodCloud. N'hésitez pas. Et d'ailleurs, suite à la publication de ce podcast, je vais créer une playlist High Speed Dating, comme je l'ai fait avec les émissions et les chroniques de Mister Yoyo et de Ghislain. Donc n'hésitez pas à consulter cette playlist, vous pourrez retrouver les High Speed Dating. Par exemple, si vous n'êtes intéressé que par les High Speed Dating dans Analyse F1, ce que je peux concevoir, et je vous remercie quand même d'écouter Analyse F1, eh bien vous pourrez retrouver les podcasts qui vous intéressent donc dans cette playlist, tout simplement. Donc voilà, pour ceux qui n'avaient pas suivi le premier numéro, en fait je fais dans l'ordre décroissant des titres, puis des victoires, puis des podiums, puis des courses. Puis voilà, bah, puis c'est tout, hein, tout simplement. Donc on avait logiquement commencé par Sébastien Vettel, quadruple champion du monde, et aujourd'hui, on continue tout aussi logiquement par Lewis Hamilton, le triple champion du monde. Donc là encore, on parle d'un très bon pilote, donc ça va être encore un podcast avec pas mal de louanges, hein, bah, c'est sûr, et peu de critiques, hein, sur Hamilton, comme je l'avais fait sur Vettel. Bah oui, vu la qualité des deux pilotes, faut bien leur rendre hommage. Mais nul n'est parfait. Nul n'est parfait, et en tant que pilote également. On avait vu avec Vettel qu'il y avait une ombre au tableau, on va dire. Et concernant Hamilton, on va peut-être en voir une également. Mais ce n'est pas le but d'aller chercher la petite bête, hein. Le but, c'est voilà, d'analyser, de regarder sa carrière et d'analyser ce qui s'est passé pour voir l'évolution qu'a eu ce pilote, l'évolution formidable qu'a eu ce pilote en l'occurrence, sa montée en puissance, et puis parler un peu de sa carrière en F1 rapidement. Donc voilà, Lewis Carl David Hamilton est né le 7 janvier 1985 à Stevenage, dans le Hertfordshire, au Royaume-Uni, quelques kilomètres au nord de Londres. Voilà, je pense que ça peut être considéré comme la banlieue nord-lyonnaise, londonienne, quoique c'est quand même quelques dizaines de kilomètres au nord, donc c'est peut-être pas non plus tellement la banlieue nord. Je ne sais pas, je ne suis pas assez calé en géographie. Bref, en géographie londonienne et anglaise. Bref, le fait est qu'il est issu d'un milieu plutôt modeste, hein, on le sait, Lewis Hamilton. Et donc, il a eu un premier contact avec la course assez tôt, puisque c'était en 1991. Quelle fabuleuse année, 1991. Ah là là. Bref, j'arrête de me lancer aussi des louanges. En 1991, sa première expérience avec la course, donc il a à peine 6 ans. Et c'était avec quoi, selon vous? Avec un karting non perdu, c'était avec une voiture télécommandée. Et oui, et oui. Alors vous allez me dire, ah oh mince, moi aussi j'ai une voiture télécommandée à 6 ans, j'en avais même une à 3-4 ans. J'aurais pu être champion de F1. Non, non, vous n'avez rien loupé, je vous rassure, n'ayez aucun regret. Moi aussi, hein, j'ai eu une voiture télécommandée étant jeune. Non, 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 on n'a rien loupé. Vous savez pourquoi? Parce que en plus de ce goût pour la course qu'a eu Lewis Hamilton très jeune et que lui a, on va dire, transmis son père, eh bien, il y a eu un goût très prononcé pour la compétition également. Et du coup, en 1992, donc une année après avoir eu cette fameuse voiture télécommandée, en 1992, il finit modestement deuxième d'un championnat national de course de voiture télécommandée. Et ce n'était pas un championnat dont la catégorie était la catégorie des enfants, hein. Il n'y avait pas de catégorie, c'est-à-dire qu'il était contre des enfants, contre des adultes, contre surtout des adultes. Il a fini deuxième du championnat, ben voilà, du Royaume-Uni, quoi, d'Angleterre, de voitures télécommandées. Voilà, donc à mon avis, pour les adultes qui étaient contre lui, ça la fout un peu mal, hein, ça c'est sûr, de se faire battre par un gamin de 7 ans qui arrive tout juste dans le métier, alors qu'il y a peut-être des gens hyper passionnés par les courses de voitures télécommandées qui sont là depuis des années. Donc voilà, c'est dire quand même son sens de la course, son sens de la trajectoire très tôt également, hein, son envie de vitesse. Et ben là, il pilotait pas vraiment, il contrôlait une voiture télécommandée. Mais voilà, finalement, ça va être récompensé, on va dire, cette envie de compétition, son père, puisque son père va lui offrir son premier karting. Son premier karting suite à cette superbe deuxième place, il faut le dire, hein, d'un championnat national. Donc voilà, son père lui offre un karting, et là il va pouvoir vraiment être dans la voiture, voilà, pour piloter enfin dans le karting, pour piloter, il n'aura plus besoin d'une manette, d'une télécommande. Donc voilà, et donc c'est vraiment les premiers pas d'Hamilton dans le monde du sport auto. Et d'ailleurs, Hamilton remercie souvent en public, hein, souvent dans ses déclarations et ses interviews, il remercie régulièrement son père pour avoir fait pas mal de sacrifices pour lui permettre d'avoir sa carrière tout simplement, et que sa carrière ne dure pas que par exemple un an ou deux, et qu'après, eh bien, il n'y ait plus de fond, donc plus de comment dire, plus de pilote, plus d'Hamilton en carrière. Non, non, son père a vraiment fait d'énormes sacrifices pour que sa carrière suive son cours, suivant son talent. Et en effet, ben, ça a suivi son cours suivant son talent. Mais avant ça, enfin, à 8 ans, il commence la compétition à karting, donc on doit être à 8 ans autour de 93-94. Et c'est d'ailleurs en 1994 qu'il connaîtra une énorme déception, puisqu'il regardait déjà la F1 assidûment, Lewis Hamilton, et il a connu la mort de son idole Ayrton Senna. Donc c'est un premier épisode triste. D'ailleurs, ça a toujours été son idole, hein. Senna, on l'a bien vu cette année, hein, quand il l'a égalé au nombre de titres mondiaux, il l'a cité de nombreuses fois, bref, c'est vraiment une icône pour lui. En 1995, revenons un peu à la course, il a 10 ans et il gagne le British Karting Championship dans la catégorie cadet et le STP Karting Championship. Donc voilà, il gagne déjà des compétitions en karting, compétition nationale. En 1996, il remporte de nouvelles compétitions de karting, dont le Sky TV Kart Masters, les Five Nations et les Champions of the Future. En fait, j'ai cité les trois qu'il a remportés. Voilà, en 1997, il en remporte encore des compétitions de karting. Donc voilà, comparé par exemple à, je crois, Sébastien Vettel, il avait gagné des championnats régionaux comme ça, des championnats locaux, mais pas autant de compétitions que Lewis Hamilton en karting, hein, parce que là, c'est vrai que 95, 96, 97, et enfin en 98, il en gagne des encore plus prestigieux des courses de karting, puisque il va tout simplement. Non, c'est plus tard, ouais, en 99, 2000 et 2001, où il a des titres au niveau européen, mais avant ça, en 98, il obtient le soutien de McLaren. Et là, on peut faire un parallèle avec Vettel, qui avait eu le soutien de Red Bull suite à ses très bonnes performances, enfin ses performances en karting, même s'il n'a pas remporté moult titres, mais sa pointe de vitesse, étant jeune, plus jeune peut-être que ses adversaires, eh bien, a interpellé. Pareil pour Hamilton, hein, il est jeune, hein, je rappelle, en 98, il a 12-13 ans, enfin, il a 13 ans plutôt, vu qu'il est né en janvier, donc c'est sûr qu'il a 13 ans. J'allais dire selon où on se place dans l'année, mais là, il n'y a pas de question à se poser. Il est né en tout début d'année. Donc, il a 13 ans, et déjà, là, il rencontre Ron Dennis, qui lui donne son soutien, et qui lui propose un programme de jeune pilote, avec en plus dans le contrat, bon, une petite option dans le contrat pour entrer en F1 dans le futur. À 13 ans, normal. Enfin, voilà, c'est déjà une carrière qu'on pourrait dire toute tracée pour Hamilton, sous couvert qu'il ait le talent nécessaire et qu'il gagne des championnats. Voilà, tout simplement. Si, par exemple, il n'avait pas gagné de titre, eh bien, il ne serait pas en F1, du moins, il ne serait pas entré en F1 avec McLaren, ça c'est sûr. Donc voilà, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est-à-dire la carrière a été toute tracée. Oui et non. Certes, ça l'a beaucoup aidé d'avoir ce soutien. C'est clair, ça lui a donné de l'exposition et ça lui a permis encore plus d'avancer, aussi financièrement, ça c'est sûr, d'obtenir des sponsors. Mais au niveau de son talent, il a fait le boulot, il a été très professionnel et il a fait ce qu'il fallait pour aller en F1. Voilà, et Ron Dennis a très bien flairé sa nouvelle pépite également, ça c'est clair, on peut le féliciter comme on peut féliciter Red Bull d'avoir trouvé Vettel. Là c'est pareil, on peut les remercier également. Tout à fait. Donc en 98, il a également fait des, je pense, des compétitions en karting, mais c'est surtout en 99, 2000 et 2001 où voilà, il remporte des titres cette fois-ci au niveau européen quand même. Il remporte les prestigieux aussi. Enfin, il remporte des courses dans les prestigieuses compétitions Formule A et Formule Super A en 2000 et 2001. Mais d'ailleurs, dans ces compétitions, son coéquipier, c'était Nico Rosberg. Et oui, c'est là qu'ils se sont connus. On sait qu'ils se sont connus jeunes. Et bien voilà, c'est en 2000 et 2001 où ils étaient coéquipiers. Et oui, tout simplement. Et là, on se place fin 2001 et Lewis Hamilton a environ 8 ans de karting en tout dans les pattes. Ce qui est pas mal quand même, 8 ans de karting c'est beaucoup, avant d'entrer en monoplace. Et il a donc un bagage assez suffisant pour entrer dans le grand bain, enfin dans le grand bain. Ça reste le petit bain si on met en perspective toute sa carrière. Dans le petit bain du sport auto et de la monoplace. Mais il est jeune hein, quand même, 8 ans de karting, mais quand même quand il sort du karting il n'a que 15-16 ans. Ce qui est jeune à l'époque hein, quand même pour un pilote d'entrer en monoplace à cet âge. Mais voilà, il a le talent, il a remporté pas mal de compétitions prestigieuses en plus de cela. Et voilà, il est sérieux, il a le soutien de McLaren. Donc voilà, il y va en 2001. Il se retrouve en Formule Renault 2000 UK, donc Royaume-Uni Winter Series. En 2002, il finit troisième pour sa première saison en Formule Renault 2000 UK. Ça, c'est une saison complète, hein. Les Winter Series, c'est, je crois, entre 3 et 5 courses, hein, je ne sais plus exactement. Formule Renault 2000 UK, c'est 15 courses environ. Donc voilà, il finit 3e pour sa première saison. Et il finit 5e de l'Eurocup de cette FR 2000 UK. En 2003, deuxième saison, il remporte la série avec une domination totale puisqu'il remporte 10 courses sur les 15 qu'il y avait au programme. Et il score 13 podiums en tout. Donc voilà, on peut vraiment parler d'une domination. Et durant cette année-là, donc en 2003, il a 2003, il a 18 ans. Il a 18 ans durant cette année-là, il participe également brièvement à d'autres séries, dont le prestigieux Grand Prix de Macao. Tout simplement. Bon, il n'a pas fait de résultat, il est non classé, mais c'est notable de voilà participer à Macao à 18 ans, c'est pas mal. En 2004, il rejoint une nouvelle compétition, c'est normal, il avance dans sa carrière, il rejoint les prestigieux F3 Euro Series et il termine 5e pour sa première saison. Première saison au cours de laquelle il retrouvera Nico Rosberg qui finit juste devant lui d'ailleurs au classement du championnat 4e. Il y avait également en participant cette année-là et qui iront en F1 plus tard Robert Kubica, Guido van der Garde et Adrian Sutil. En 2004, il participe également à des courses uniques dont le Bahrain Super Prix. Et encore le Grand Prix de Macao. Bon là aussi il fait pas de performance exceptionnelle au Grand Prix de Macao. Je crois que le Bahrain Super Prix le remporte par contre, si ma mémoire est bonne. Mais bon c'est plutôt anecdotique, même si c'est toujours bien de remporter ce genre de course. Surtout le Grand Prix de Macao, c'est vrai. Donc voilà, l'année suivante il continue en F3 Euro Series pour gagner. Il fait comme en Formule Renault 2000 UK. Première saison il s'adapte, il est quand même très compétitif. Et deuxième saison, il assomme la concurrence. Et ben là, c'est pareil, hein. Il remporte les F3 Euro Series avec 15 victoires sur 20 courses, 17 podiums. Donc des statistiques finalement très similaires à ce qu'il avait connu en Formule Renault 2000. Donc voilà, boum, une grosse domination de sa part. C'est là aussi qu'il s'est fait repérer hein, par ses dominations. Un pilote qui a ses statistiques ne peut pas laisser indifférent et surtout, ben, plus que les statistiques, c'est que voilà, il est très fort, très rapide, tout simplement, et sûrement très, enfin voilà, pour son âge, très mature dans son pilotage. Cette saison, il participait à cette saison également en compagnie de Adrian Sutil, Luca Di Grassi, Sébastien Vettel. Et oui, souvenez-vous, j'en avais parlé de cette saison de F3 Euro Series dans le précédent podcast de HSD. Donc n'hésitez pas à vous y référer pour avoir le point de vue de Vettel. Là, on a le point de vue du vainqueur hein, de cette saison-là. Donc, c'était Lewis Hamilton. Et il y avait également Guido van der Garde et Paul di Resta. Donc quand même, il y avait en tout cette année-là 6 futurs pilotes de F1 en F3 Euro Series en 2005. Donc ben, une sacrée mouture, un bon cru, ça c'est clair. En 2006, il rejoint ben, la rampe d'accession directe à la F1, et c'est-à-dire le GP2. Et ce sera d'ailleurs, ça sera la rampe d'accession très rapide, puisque une saison suffira. Pourquoi? Parce que dès sa première saison, il remporte le championnat GP2. Cette fois-ci, plus besoin d'avoir une première saison pour s'adapter et tout. Directement, il montre qui est le patron, il montre son talent, et il remporte ce championnat GP2, juste devant Nelson Piquet Jr. Et il y avait également, lors de cette saison-là, Timo Glock, Giorgio Pantano et Luca Di Grassi qui a bien suivi les pas de Hamilton, en tout cas en 2005 et 2006. Et voilà, et enfin, en 2007, vous le savez, il rentre en F1. Donc si on fait une petite... si on revient un peu sur sa carrière pré-F1, on peut dire que c'est une ascension assez logique, finalement. Il a remporté toutes les séries où il a été. Donc ça, c'est assez clair. Pas beaucoup l'ont fait. On a vu que Vettel l'a pas forcément fait. Là, Hamilton l'a fait. Il n'a pas participé à non plus 36 séries. Vettel, je pense qu'il avait, si je me souviens bien, il a participé à un peu plus de séries. En faisant peut-être un petit peu moins de karting. Je ne sais plus trop. En tout cas, sa carrière en karting, je m'en souviens plus trop. Elle m'a pas trop marqué. Surtout sa carrière en monoplace avec la formule BMW. Mais en tout cas, du côté d'Hamilton, carrière en karting très faste. Et également pareil en monoplace. Et quand je dis très fast, je me permets ce petit jeu de mots avec à la fois le mot français fast, hein, FASTE, et le mot anglais fast, FAST, qui veut dire rapide. Bref, je me rends compte que quand on explique les jeux de mots, c'est beaucoup moins rigolo. Bref, j'espère que vous avez rigolé avant que je l'explique. C'est toujours mieux. Bref, c'était une petite galéjade, hein, si je puis me permettre ce mot barbare. Et donc il entre en F1 en 2007, donc assez logiquement. Par contre, ce qui est un peu moins logique pour un rookie, c'est qu'il entre directement dans une écurie de pointe, il entre directement chez McLaren, qui avait une voiture capable de lutter pour le titre, puisque en 2007, les deux pilotes McLaren ont lutté pour le titre, en l'occurrence Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Et oui, pour sa première saison, avoir Alonso en coéquipier, je pense que pas beaucoup n'aimeraient, enfin... Il y en a qui aimeraient du point de vue de l'expérience, c'est très intéressant, mais pour se faire assommer en fin de saison au niveau du championnat, c'est jamais drôle. Vous en parlerez à différents coéquipiers qu'il y a eu Alonso, hein. Que ce soit Arnaud Trulli, Giancarlo Fisichella et d'autres, hein. Même Romain Grosjean en 2009, hein, ça lui a fait beaucoup, beaucoup de mal également. Felipe Massa chez Ferrari, bref, peu sont les pilotes à avoir tenu tête à Alonso. Dans une écurie qui était capable de lutter pour les points. Bon, cette saison, c'est l'exception qui confirme la règle, enfin. Je sais pas si on peut vraiment l'inclure. C'est Jenson Button qui est devant Fernando Alonso et qui est plus régulièrement devant lui que la normale, on va dire. Mais bon, cette année, McLaren, ils font des séances d'essais libres à quasi toutes les courses. Donc bon, c'est pas très pertinent. Donc voilà, finalement, Lewis Hamilton, c'est le seul pilote. On va dire dans quasiment toute la carrière d'Alonso, à lui avoir posé problème. Et lui avoir posé problème, on va dire, dans tous les sens du terme. Cette saison était vraiment une saison à problème, hein, que ce soit pour McLaren ou Alonso. Et au contraire, pour Hamilton, c'était vraiment, ben, dès la première saison, il a des victoires, des pole positions, beaucoup de podiums, il lutte pour le titre, il échoue à un point du titre seulement. Bon, peut-être qu'il était un peu jeune pour avoir cette pression, il a pu commettre peut-être quelques erreurs. Mais voilà, déjà, première saison faire ça, il a marqué les esprits. Ensuite, il y a autre chose qui a marqué les esprits la première saison. C'est évidemment qu'il était le fait qu'il soit le premier pilote de couleur à prendre part à un Grand Prix de Formule 1. Donc ça a fait beaucoup, beaucoup parler finalement sur l'ouverture de la F1 à tout le monde, on va dire. Heureusement, après la première saison, surtout la première saison, on a entendu parler, mais après la première saison, on en a parlé comme un pilote, comme les autres, quoi. On n'a plus jamais évoqué ce fait, ce point de vue physique, on va dire, et on l'a estimé comme un pilote. Et selon moi, voilà, c'est ce qu'on doit faire avec tout le monde, y compris avec les pilotes féminins. Les pilotes féminins qui, selon moi, doivent être estimés comme tout autre pilote, hein. Il n'y a pas à dire, ah, c'est un pilote, c'est une femme, elle court forcément, voilà, elle a fini dixième du championnat, c'est trop bien. Non, elle a fini dixième d'un championnat, c'est moyen, hein, tout simplement, que ce soit un homme ou une femme, il faut. Et à un moment, il faut dire les choses, n'en déplaise à Carmen Jordá qui voudrait un championnat 100% féminin et qui n'a véritablement rien compris. Et c'est ce genre de déclarations qui font du mal. Qui font du mal, tout simplement, ben, aux femmes pilotes, hein, tout simplement. Bref, ceci étant dit, donc Lewis Hamilton, qui tout simplement, pour un pilote rookie, est formidable dès sa première saison. Deuxième saison, il remporte le titre de champion du monde, tout simplement, chez McLaren, avec McLaren. C'est juste fou. Donc, il était assez jeune, hein. Il entre en Formule 1 à 22 ans, hein, ce qui était très jeune à l'époque. Il faut le rappeler quand même dans le contexte. C'était un des plus jeunes, voire le plus jeune également. Il avait eu des records avant que Vettel peut-être ne les prenne, il me semble. Mais sinon, il avait des records à la clé. Ensuite, en 2009, 2010, bon, il connaît. Bah, 2009, c'était un peu plus compliqué pour McLaren. Mais quand même, hein, il a fait ce qu'il faut. En 2010, il était coéquipier avec Jenson Button cette fois-ci. Donc, on va dire. C'était un peu plus serré entre les deux Britanniques, hein, deux champions du monde quand même. Et c'était intéressant, ils s'entendaient bien, les deux pilotes, hein, c'était une bonne entente. Mais voilà, en piste, c'était pas mal. C'était pas mal de voir leur duel à distance, leur duel en piste. Il a remporté quelques victoires ces années-là, en 2010, 2011, 2012, hein, 2012, tout simplement chez McLaren. En 2011, c'est l'ombre au tableau dont je vous parlais tout à l'heure, hein, c'est la mauvaise saison, sa plus mauvaise saison en F1, puisque il a fait pas mal d'erreurs, il s'est brouillé durant cette saison-là avec Felipe Massa. Alors, ben, les deux, on n'arrêtait pas de, on va dire, de se chercher les noises en piste, et ça finissait souvent par des abandons ou des grosses pertes de temps. Donc voilà, c'était assez bête et vraiment, mais il l'avoue, hein, c'est vrai qu'à cette époque-là, il n'était pas bien Hamilton dans sa tête. Et quand Hamilton n'est pas bien dans sa tête, c'est-à-dire dans sa vie privée, ça se ressent en piste, ça peut se ressentir en piste. Et voilà, bon, heureusement en 2012, ça allait beaucoup mieux. Il a remporté un peu plus de victoires et au championnat, c'était mieux. Et voilà, sinon sur l'ensemble, il a plutôt dominé Button, hein, il faut le dire. Même si Button, ben, c'était quand même serré, hein, il l'a pas écrasé du tout. Et il y a même, je crois, une saison où Button était devant. Mais sinon, c'était plutôt serré, hein, un bon line-up McLaren. En 2013, il rejoint Mercedes, hein, contre toute attente, puisque voilà, McLaren luttait pour des victoires assez régulièrement, même s'il luttait pas pour le titre. Et Mercedes, au contraire, cherchait les podiums. C'était dur, hein, pour avoir des podiums. Mais le projet de Mercedes de lutter pour le championnat du monde en 2 ans a attiré Hamilton qui voulait essayer également voir autre chose dans l'intérêt de sa carrière, quoi, pour avoir un souffle nouveau. Il aime bien ça, chercher un souffle nouveau. J'en avais parlé dans le podcast précédent. Et du coup, il rejoint Mercedes en 2013. Et du coup, Mercedes avec Nico Rosberg. Qui était déjà chez Mercedes depuis un moment. Et du coup, Lewis Hamilton en 2013 fait plutôt une bonne saison, remporte quelques victoires également. Je ne sais pas s'il y a une saison où il n'a pas remporté de victoire, Hamilton. Ça, c'est une vraie question. Faudrait voir 2009. J'ai pas fait la vérification, mais je crois qu'il n'y a qu'une saison où il n'a pas dû remporter de victoire. Hein, et je pense que c'est 2009, ou voire il n'y a aucune saison où il n'a pas remporté de victoire. Ça m'étonnerait pas non plus. Enfin bref, 2013, donc plutôt une bonne saison pour Mercedes, hein, meilleure que ce qu'on pouvait s'attendre, enfin meilleure que ce qu'elle a été durant ces années passées. Et du coup, 2014 et 2015, bah, c'est les années de domination sans partage ou presque de Mercedes avec Hamilton qui remporte les titres 2 fois, dont l'année dernière c'était vraiment une saison compliquée puisqu'il était vraiment en duel direct avec son coéquipier. Donc là, on pouvait vraiment voir. On a vraiment pu voir ses qualités, hein, que ce soit l'année dernière ou cette saison. L'année dernière, parce que il a su rester solide et finalement gagner le championnat au nez à la barbe de Nico Rosberg. Après certains duels dantesques, hein, après par exemple Bahreïn, hein, c'est le meilleur exemple. Puis il y a eu des grands prix comme Monza où il a mis la pression à Rosberg qui n'a pas su résister. Il y a eu quelques exemples comme ça, le clash à Spa, etc., etc. Enfin bref, c'est vrai que 2014 a été une très bonne saison et 2015 est encore une meilleure saison puisqu'il casse tous ses records, hein, Hamilton, pour remporter le titre à quelques courses de la fin, à trois courses de la fin au Grand Prix des États-Unis. Il remporte son troisième titre de champion du monde et vraiment haut la main cette saison avec une domination énorme et insolente sur Nico Rosberg. Qui ne s'en est pas remis et qui a été, il a complètement enterré psychologiquement son coéquipier, ce qui est très fort, hein, ce qui est très fort parce que Rosberg est arrivé en 2015 avec d'autres intentions, des intentions de victoire et de titre, et Hamilton a haussé le niveau de jeu tout simplement et a été quasi parfait toute la saison, que ce soit en qualification ou en course. Et c'est ce qui lui a permis de remporter ce titre. Donc en tout, si on revient sur sa carrière, on va parler un peu statistiques. C'est des statistiques en cours également. Il lui reste pas mal de belles choses à faire, je pense. Il en a 9 saisons, 165 Grands Prix, 3 titres, 43 victoires en Grand Prix. 43 victoires, c'est-à-dire plus de 1 Grand Prix sur 4 passé sur la plus haute marche du podium, c'est pas mal. 49 pole positions, ah oui, il faut parler des pole positions, Hamilton. Et fait partie des 2-3 meilleurs pilotes en qualification, tout simplement, sur un tour. Il fait partie des tout meilleurs au monde de la F1. Donc il faut le signaler avec Vettel, Hamilton. J'aimerais citer également, c'est vrai, Rosberg, hein, qui a haussé son niveau de jeu. Voilà, ben, c'est vrai que c'est les meilleurs, hein. C'est vraiment les meilleurs en qualif, hein. Vettel, Hamilton, on les cite, hein, souvent en qualif. Depuis longtemps, un peu de pas que quand ils ont eu des monoplaces dominantes. Hein. Hamilton, quand il était chez McLaren, qu'il n'avait pas forcément une monoplace pour le titre, il faisait des très bonnes poles, des poles assez surprenantes. Vettel, là, cette saison, il fait des très bonnes qualifs, hein, mine de rien, il faut le citer. Voilà, donc 49 poles, c'est environ 30% passés en pole, 30% des courses passées en pole, 26 meilleurs tours en course, 85 podiums surtout. Donc là, c'est une statistique similaire à celle de Vettel dans le sens où il a passé la moitié de sa carrière sur le podium. Voilà, tout simplement. Donc, bon, beaucoup de pilotes aimeraient ça également. Et donc, ben, tout ça, enfin, ça représente 2405 tours en tête toute sa carrière, soit 12 245 km en tête. C'est pas mal, ça fait un petit road trip autour du monde, c'est sympa, en tête, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'était Lewis Hamilton, ce l'ombre au tableau, la saison 2011, où vraiment là, ouais, je m'en souviens, en 2011, c'était pas le Hamilton qu'on connaissait, hein, c'était vraiment l'ombre de lui-même, c'était heureusement qu'il a su se ressaisir en 2012, parce que ça n'allait vraiment pas du tout, et je n'ai vraiment pas aimé sa saison, c'était vraiment une saison dégueulasse de sa part, hein. Il a rendu une copie... toute froissée, avec des ratures de partout, c'était assez sale. Je n'ai pas du tout aimé sa saison. Et pour cause, lui non plus. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, donc Hamilton est plutôt vu comme... Ben, il était plutôt bien vu, hein, dans le paddock, hein, il faut dire, à part peut-être de son coéquipier intérieurement, évidemment, il y a cette rivalité, donc on ne peut pas y empêcher, c'est normal. Mais sinon, il est plutôt bien vu, hein, il avait reçu les louanges d'Alonso il y a quelques semaines. Donc ce n'est pas rien. Et ben voilà, il a toujours plutôt bien performé, sauf en 2011 comme je l'ai dit. Mais sinon, voilà, il y a pas grand-chose à dire. Il ne se fait pas d'ennemis. Il est en piste, il est très performant dans tous les compartiments du pilotage. Voilà, rien à dire. Très bon pilote. Et ben on lui souhaite que sa carrière continue sur ce, comment dire, dans cette voie-là, hein, mais moi, bon, je dis ça avec pour chaque pilote, hein, je souhaite le meilleur pour chaque pilote, donc bon, enfin, c'est un peu bête quelque part, mais bon, je ne suis pas supporter dans mon rôle de podcasteur, donc évidemment, ouais, je lui souhaite le meilleur, comme je souhaitais le meilleur à Vettel, et voilà, et puis qu'il nous fasse rêver, parce que c'est ça le but, moi, ce que je veux voir, c'est du beau pilotage, donc évidemment que je vais souhaiter que chaque pilote soit au mieux de sa forme, et voire même plus, et s'améliore, pour ça que je suis sévère avec certains pilotes comme Maldonado et Verstappen, parce qu'on sait qu'ils ont eu à un moment le potentiel ou qu'ils ont le potentiel et qu'ils pourraient faire mieux. Donc on a envie qu'ils fassent mieux pour nous montrer des belles choses, parce que quand on regarde la F1, on va pas se mentir, on veut voir les meilleurs du monde à leur plus haut niveau. Et on a la chance quand même d'avoir un sacré plateau depuis quelques années, avec à chaque fois plusieurs champions du monde qui courent et qui nous offrent quand même du beau spectacle, il faut le dire. Même si certains grands prix peuvent être un peu plus ennuyeux que d'autres, mais au niveau du pilotage, c'est vrai que les pilotes sont assez efficaces. Et en plus, on voit des nouveaux pilotes émerger, hein, comme Ricciardo ces dernières années, Bottas par exemple, etc., etc. Peut-être Verstappen dans le futur, qui sait, ou Carlos Sainz, on verra bien. Mais voilà, c'est intéressant de voir la F1 de ce point de vue-là, je pense, du point de vue du positif et du beau pilotage. Et le beau pilotage, ça donne des belles courses, tout simplement, et des pilotes qu'on admire. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le partager. Il était peut-être un peu long, mais c'est vrai que là, on parle de la star du moment. Donc, il fallait que je fasse un peu plus long que prévu, ça c'est sûr. On parle de Lewis Hamilton. C'est quand même important de revenir sur un peu toute sa carrière qui finalement a été sous le signe du numéro 1. C'est-à-dire, enfin, cette année sous le signe du numéro 44, hein, vu qu'il a gardé ce numéro, mais. Je veux dire qu'il a, il a remporté, il a quasi gagné, il a quasiment remporté tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Donc voilà, c'est une carrière de champion du monde de F1. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une carrière d'un pilote qui restera ancré dans l'histoire du sport. Et oui, il faut le dire quand même. Ça fait bizarre parce que ça reste récent pour nous, mais avec le recul, on le verra comme un grand pilote, hein, ça c'est sûr. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un bon Grand Prix du Brésil, bon Grand Prix du Brésil, et tous ensemble, dimanche, vivons notre passion à Interlagos. À bientôt.